Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, lors de notre premier sermon sur le sacrement de l'ordre, un peu avant Noël, nous avons vu que l'ordre se définit essentiellement comme un pouvoir. Ce pouvoir est essentiellement le pouvoir sur la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire un pouvoir physique sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ pour réaliser le sacrifice eucharistique. Je vous ai dit que, en conséquence de ce pouvoir sur le corps physique de Jésus, le prêtre avait un pouvoir sur le corps mystique, c'est-à-dire sur les fidèles. Le Concile de Trente nous dit que lorsque les pères de l'Église ont appelé le sacrement de l'ordre, lui ont donné ce nom, ordre, qui est un nom très large, très général. Ils l'ont fait exprès pour mettre en valeur la grandeur et l'étendue du pouvoir sacerdotal. Il faut donc que nous étudions un peu plus en profondeur ce pouvoir. Notre Seigneur, juste avant de quitter ce monde, juste avant l'ascension, c'est en Saint Matthieu chapitre 28, dit à ses apôtres: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Ces paroles sont très denses, très concentrées, et en même temps très précise. Commençons par la fin, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. C'est certainement l'assistance du Saint-Esprit aux apôtres, à l'Église, mais même aux prêtres. C'est également la garantie que le sacerdoce durera jusqu'à la fin du monde. C'est également la garantie que le sacrifice de notre Seigneur durera jusqu'à la fin du monde. Je vous en ai suffisamment parlé du fait que la Sainte Eucharistie, le sacrifice eucharistique, étant dans tous les siècles, jusqu'à la fin du monde, l'efficacité de la croix. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, donc notre Seigneur fait référence à son pouvoir pour montrer qu'il transmet ce pouvoir. Et il va déterminer ce pouvoir, et vous constatez qu'il est triple. Allez donc, 1. Enseignez toutes les nations. Enseignez. 2. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez. 3. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Troisième pouvoir. Vous avez là le pouvoir d'enseigner, c'est le magistère. Le pouvoir de sanctifier, c'est le pouvoir proprement sacerdotal, et le pouvoir de diriger. De ces trois pouvoirs, il est certain que c'est le pouvoir central, sanctifier, qui est le pouvoir essentiel. Ce pouvoir, c'est la sanctification par les sacrements. Pourquoi notre Seigneur dit-il le baptême ? Pourquoi ne dit-il pas la Sainte Eucharistie ? Parce que, en désignant le baptême, il désigne la porte de tous les sacrements, il désigne le début de la route. L'Église a toujours compris que, en donnant ce pouvoir de baptiser, notre Seigneur donnait le pouvoir de mener jusqu'au bout, jusque à la participation au sacrifice eucharistique. Donc, lorsque notre Seigneur parle du baptême, l'achèvement, nous avons vu cela, je ne sais pas si je voulais exposer, parce qu'on ne peut pas tout exposer, mais à propos du baptême et de l'Eucharistie, saint Thomas a étudié, savoir si quelqu'un est baptisé, qu'il n'a pas reçu l'Eucharistie, est-ce normal, pas normal. Et il dit, le baptême nous oriente vers l'Eucharistie, même si tout le monde n'y arrive pas. Il faut que nous nous rappelions donc tout ce que nous avons enseigné sur l'union à Dieu par Jésus-Christ, sur l'Eucharistie, sommet des sacrements, parce que c'est le sacrement de l'union à Dieu. C'est vraiment là la grandeur première du prêtre. Il unit, à travers la Sainte Eucharistie et à travers les autres sacrements, il unit les âmes à Dieu. Avec le baptême, il y a évidemment le sacrement de la pénitence, l'absolution des péchés. Il y a également l'extrême onction, qui est à la fois une remise des péchés, mais surtout, le sacrement, je crois que je vous en ai touché un tout petit mot, le sacrement qui fait entrer dans l'éternité. Et nous verrons pour le mariage que c'est les époux qui se donnent le sacrement. Et puis le sacrement de confirmation, qui n'est pas donné par les simples prêtres, mais qui est donné par les évêques, mais qui sont prêtres, et qui utilisent, là, leur pouvoir sacerdotal. Avant le pouvoir de sanctification, vient le pouvoir d'enseignement. Et ça, c'est très important. On ne peut pas s'unir à Dieu si on ne le connaît pas. Et donc, il faut la foi. Et pour avoir la foi, il faut être enseigné. Parce que notre religion est une religion révélée. Jésus-Christ a parlé, il a dit ce qu'il contemplait dans le sein de la Sainte Trinité, il nous l'a révélé. Et il a donné l'ordre aux apôtres, ce que vous avez entendu à l'oreille, clamez-le sur les toits, c'est-à-dire faites-le connaître à tout le monde. Il y a donc une certaine primauté à l'enseignement. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas se précipiter vers le sacrement de la Sainte Eucharistie sans une préparation, qui doit être d'abord une préparation de l'intelligence, parce que l'homme se définit d'abord par son intelligence. Son intelligence qui lui fait voir, justement, en pénétrer dans cette sagesse de Dieu et voir ce que Dieu voit. Et le troisième pouvoir sacerdotal, c'est le gouvernement des chrétiens. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est la conséquence. Celui qui est uni à Dieu, le chrétien, doit diriger sa vie vers Dieu. Cela aussi, ça prend. Et pour cela aussi, il faut être dirigé. Comme nous l'avons vu pour l'enseignement, on ne peut pas s'enseigner soi-même, il faut un maître. On ne peut pas apprendre à se diriger soi-même, il faut un chef. Seulement, faisons bien attention. Le gouvernement des hommes n'est pas comme le gouvernement des animaux. La grande différence, c'est que l'homme connaît la fin vers laquelle il se dirige et il choisit lui-même les moyens pour arriver à la fin. C'est ce qu'on appelle la liberté, l'exercice de la liberté ou l'exercice de la prudence. Tandis que l'animal, lui, ne connaît pas la fin et par conséquent, les moyens lui sont imposés par son instinct. Et donc, les prêtres et les évêques ne dirigent pas les hommes comme des animaux ou comme des esclaves, en donnant des ordres qui n'auraient pas besoin d'être compris. Ils dirigent en formant la liberté, en permettant à chacun d'observer les commandements de Dieu. Ce sont les paroles mêmes de Jésus-Christ. Apprenez-leur à observer les commandements, et non pas prenez-les en main, et non pas dirigez-les, ce qui aurait pu être ambigu, ou non pas une autre formule. Apprenez-leur à observer, c'est-à-dire à se diriger. Cette formation à la liberté des enfants de Dieu est très importante, parce que elle va avec justement le caractère d'amitié, d'union du chrétien avec Dieu. Elle est encore plus importante aujourd'hui, où le pouvoir a une tendance quasi systématique à la tyrannie, même dans l'Église, et où, au contraire, il faut que les fidèles soient capables de défendre leur foi et de choisir eux-mêmes, de discerner eux-mêmes quel est l'évêque et quels sont les prêtres qui leur donneront vraiment, qui exerceront vraiment leur pouvoir au nom de Dieu. Qui n'exerceront pas leur pouvoir en leur nom propre, ce qui est le propre des mercenaires, mais qu'ils l'exerceront au nom de Dieu. Vous voyez que ces trois pouvoirs peuvent se classer en deux catégories. Le pouvoir central, la sanctification, c'est le pouvoir d'ordre au sens propre. C'est le pouvoir essentiel, pouvoir sur le corps physique du Christ, je vous l'ai dit. Et puis l'enseignement ainsi que la direction sont un pouvoir sur le corps mystique, c'est-à-dire sur les fidèles, mais on lui donne le nom de juridiction. Juridiction, c'est-à-dire dire le droit, donner le droit, donner la direction, dire ce qui est juste, mener vers la justice, mettre de l'ordre dans la société. En soi, le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire sur le corps physique de Jésus-Christ, n'est pas soumis à l'évêque. Quand le prêtre est ordonné, bien sûr, il est ordonné par l'évêque. Enfin, quand il est ordonné, il reçoit immédiatement le pouvoir de consacrer le pain et le vin, tandis que le pouvoir de juridiction, lui, est soumis à l'évêque. Parce que le prêtre ne reçoit pas, le jour de l'ordination sacerdotale, une responsabilité sur un troupeau particulier. Tandis que l'évêque, lui, par le sacre, reçoit un troupeau particulier, un troupeau qui lui est confié. Le pouvoir d'ordre du prêtre est par conséquent inapplicable aux individus sans la juridiction, c'est-à-dire sans qu'on lui donne un pouvoir sur les fidèles, en particulier, et non pas seulement sur le corps du Christ, pouvoir sur les fidèles qui, je vous l'ai dit, n'est pas donné par l'ordination. Dans l'ordination, vous n'avez à aucun moment l'évêque qui dit à celui qui l'ordonne « reçoit un pouvoir sur le troupeau » et lui dit « reçoit un pouvoir sur le pain et le vin pour les consacrer ». Et par conséquent, c'est l'évêque qui va déterminer le troupeau du prêtre et qui va le charger, le prêtre, de donner les sacrements à tel troupeau plutôt qu'à tel autre, à telle partie du troupeau. Donc la fonction première du prêtre est de consacrer, et la fonction première de l'évêque est d'enseigner et de diriger, c'est-à-dire d'avoir la charge du troupeau. Les deux pouvoirs sont liés. Il est évident que si le prêtre était ordonné sans qu'après cela on lui donne la juridiction, ça n'aurait pas beaucoup de sens. De même, si l'évêque recevait le troupeau sans être prêtre, ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus. D'où des difficultés théologiques, mais dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'entrer, à savoir quelle est la définition propre de l'épiscopat. Mais ça, c'est très secondaire. Il faut savoir que l'évêque est pleinement prêtre et pleinement chef. Le prêtre, lui, est prêtre également, mais il n'est pas pleinement chef. Cependant, il participe au pouvoir de l'évêque, puisqu'il reçoit une part du troupeau, et il enseigne. Et ça, c'est très important. Il n'enseigne pas comme l'Église enseignante, parce que l'Église enseignante, c'est l'évêque, il est lui-même enseigné, le prêtre, mais il est chargé de transmettre l'enseignement qu'il a reçu. C'est pour ça que je fais très attention, lorsque je vous fais un sermon, d'aller consulter le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, Saint Thomas d'Aquin, et tout ce que j'ai reçu de Monseigneur Lefèvre, tout l'enseignement que j'ai reçu de Monseigneur Lefèvre, et que, grâce à Dieu, j'ai très présent à l'esprit. Parce que je transmets ce que j'ai reçu. C'est déjà vrai de l'évêque, alors à plus forte raison du prêtre. De même, le prêtre participe au gouvernement de l'évêque en transmettant aux fidèles la direction donnée par l'évêque. Vous ne vous en rendez pas toujours compte, mais voyez ce que fait Mgr Williamson actuellement. Dans ses commentaires qu'il publie chaque semaine, par petites touches, c'est la méthode qu'il a choisie, par petites touches, il donne des directions. Il dit ce qui convient, ce qui ne convient pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est conforme dans la crise actuelle, ce qui est conforme à la tradition, ce qui ne l'est pas, ce qui va dans le sens de la sagesse de Jésus-Christ, ce qui ne va pas. Et nous, nous vous transmettons cela et nous veillons à ce que ce soit appliqué. Si nous n'étions pas d'accord avec Mgr Williamson, si moi-même je n'étais pas d'accord avec Mgr Williamson, je perdrais ma légitimité, ou bien alors il faudrait que je déclare que Mgr Williamson n'est pas légitime et que je trouve un autre évêque légitime. Mais c'est pas vrai. J'ai bien vu que Mgr Williamson agissait au nom de Dieu et continuait ce que faisait Mgr Lefebvre, qui continuait lui-même ce qu'a toujours fait l'Église. Les pouvoirs du prêtre en temps de crise. Maintenant que je vous ai expliqué que le prêtre a deux pouvoirs, celui d'ordre et celui de juridiction, la plénitude étant dans l'évêque, bien entendu, mais ça, vous l'avez compris. Maintenant que je vous ai expliqué que le sacerdoce exerce un double pouvoir, il faut que vous fassiez bien attention. La validité des sacrements sera rarement en cause. Un prêtre est prêtre. Encore faut-il que vous sachiez où il vous mène. Vers quel enseignement? Vers quelle direction? Et voilà pourquoi on ne peut pas suivre aujourd'hui n'importe quel évêque, n'importe quel prêtre. Parce que il faudrait être aveugle pour ne pas s'être rendu compte qu'il y avait une grave subversion et qu'on ne peut plus faire confiance aujourd'hui à tous les évêques et à tous les prêtres, loin de là, hélas. Et même des évêques qui étaient traditionnels à l'origine finissent par se lier plus ou moins avec le monde, c'est-à-dire avec la subversion moderne, et par là ne sont plus dignes de diriger le troupeau. Alors nous verrons, il suffit pas des sacrements. Il faut que l'autre pouvoir, le pouvoir de juridiction, soit exercé conformément à la volonté de Dieu. Et il faut que le pouvoir d'ordre soit exercé licitement, légitimement, sur un troupeau que Dieu a confié, que ce soit par l'intermédiaire de l'évêque ou d'une autre manière, nous verrons ça la prochaine fois. Il faut que le pouvoir d'ordre, les sacrements, soient appliqués légitimement dans l'ordre à un troupeau dont le prêtre a légitimement la responsabilité. Tout cela, évidemment, méritera des précisions, des explications, et donc la prochaine fois, nous ferons un sermon que j'intitulerai « Ce que les fidèles doivent demander aux prêtres et à l'évêque d'une façon générale et plus particulièrement en période de crise ». Et donc je vous parlerai de l'exercice du sacerdoce dans les épreuves actuelles de l'Église. Profitez bien de cette méditation sur la grandeur du prêtre pour bien être conscient de la grandeur du don que Dieu vous fait. Le Concile de Trente, dans son catéchisme, commence en disant qu'il est important d'expliquer aux fidèles ce qu'est le sacerdoce pour qu'ils prennent bien conscience du don que Dieu leur a fait en leur donnant des prêtres et des prêtres qui consacrent le corps et le sang de Jésus-Christ sur l'autel. Demandez-le à la Sainte Vierge, mère du prêtre, parce qu'elle est mère du Christ crucifié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.